Chaque chat, 21h à Bamako et 22h à Abuja. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission par la Mauritanie, où le président Mohamed Ould Abdelaziz a déclaré être candidat pour les prochaines élections. Au Nigeria, une semaine après l'enlèvement de 190 collégiennes dans l'état de Borno, les familles sont toujours sans nouvelles. Nous évoquerons également la journée mondiale contre le paludisme, état des lieux et progrès de la lutte contre le paludisme en Afrique. En page culture, interview de Bassekou Kouyaté qui vient de remporter le prix du meilleur artiste pour les Songlines Music Awards. Et enfin, au Mali, les nouvelles technologies sont mises à l'honneur. Reportage en fin d'émission. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir, Jacques Aristide avec vous. Merci d'être avec nous. En République démocratique du Congo, au moins 25 personnes sont mortes dans une bousculade survenue lors d'un festival organisé en hommage au chanteur décédé King Kester Emeneya dans l'ouest du pays. La bousculade s'est produite dans la nuit de jeudi à vendredi au stade de Kikwit. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes précises du drame. En Centrafrique, forte tension hier soir et même ce matin dans une partie des 3e et 5e arrondissements de Bangui. De violents accrochages ont opposé les militaires français de l'opération Sangaris à des hommes armés dans le secteur de PK5. Aucun bilan n'est pour le moment disponible, mais des témoins parlent de morts et de blessés. Présidentielle du 21 juin en Mauritanie, le dialogue politique est de nouveau au point mort entre le pouvoir et l'opposition. Une semaine seulement après la reprise des discussions, la majorité des partis d'opposition qui avaient boycotté les législatives de novembre dernier sont mécontents du calendrier électoral. Peut-être un signe d'apaisement au Soudan du Sud. Des proches de Riek Machar, l'ex-vice-président, ont été libérés ce vendredi à la demande des autorités soudanaises. Les quatre hommes étaient accusés de tentative de coup d'État.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le Premier ministre ukrainien Arsenik Yatsenyuk accuse la Russie de vouloir occuper militairement et politiquement l'Ukraine pendant que les deux pays massent des troupes près de leurs frontières communes. Monsieur Yatsenyuk avertit que les actions de la Russie pourraient mener à un conflit militaire élargi, voire à la Troisième Guerre mondiale. Sur le terrain, on a signalé de nouveaux actes de violence dans l'est du pays où des séparatistes pro-russes continuent d'occuper des bâtiments gouvernementaux dans une dizaine de villes. Le président américain Barack Obama a critiqué la poursuite de l'ingérence de Moscou dans l'est de l'Ukraine et parlé de l'application de sanctions plus sévères si le Kremlin ne met pas un terme à l'escalade de la situation. Concernant le Moyen-Orient, M. Obama estime qu'il faut maintenant une pause dans les pourparlers israélo-palestiniens pour donner le temps aux deux parties d'examiner leurs options. Il est dans leur intérêt, a-t-il poursuivi, de rechercher la paix, mais ni Israël et les Palestiniens n'ont fait montre de la volonté politique requise pour prendre des décisions difficiles. Le président américain réagissait à la décision du cabinet de sécurité israélien de suspendre les pourparlers de paix avec les Palestiniens en réponse au plan conclu par Hamas et ses rivaux du Fatah pour la réconciliation et la formation d'un gouvernement d'union nationale. La Corée du Sud est la deuxième étape de la tournée de Barack Obama en Asie. Il a lancé une mise en garde à la Corée du Nord contre la conduite d'un quatrième essai nucléaire. M. Obama a réaffirmé que le soutien de l'Amérique à la Corée du Sud ne sera jamais remis en cause et que les deux pays se tiendront au coude à coude contre toute provocation nord-coréenne. Le gouvernement syrien est accusé d'avoir lancé des frappes aériennes sur un marché près de la ville d'Alep. Des frappes qui ont tué au moins 27 personnes et fait plusieurs blessés.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus et nous ouvrons donc l'émission avec la candidature officielle de Mohamed Ould Aziz, le président en exercice. Une déclaration qui n'a pas surpris à Nouakchott alors que l'ambiance politique reste délétère, le dialogue étant toujours au point mort entre le pouvoir et l'opposition. Décryptage de la situation avec Moussa Ouldamed, directeur du groupe de presse Biladi.
La cause directe du blocage actuel, c'est le calendrier électoral, dans la mesure où le pouvoir, sans référer, disent-ils à eux, les opposants, il a convoqué le collège électoral pour l'élection présidentielle du 21 juin prochain. Il l'a convoqué le 20 avril, donc il y a maintenant 5 jours. Et cela a provoqué le blocage parce que les autres ne voulaient pas entendre parler d'un calendrier électoral avant d'avoir un accord sur l'organisation de la présidentielle de manière générale. Ils réclament un calendrier électoral, disent-ils, consensuel. Pour le pouvoir, lui, il dit que cela ne doit pas bloquer le dialogue dans la mesure où il est prêt, quand il y aura un consensus sur une date donnée, à revoir sa copie. Je crois qu'il y a plus pour des facteurs psychologiques que des facteurs politiques réels. Parce que déjà, c'est les préliminaires et n'ont même pas encore atteint les questions de fond. Les 4 questions de fond qui devraient être l'objet du dialogue.
Moussa Ouldamed, directeur du groupe de presse Biladi, au micro de Jacques Aristide. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 102 FM, notre fréquence à Bamako. Au Nigeria, plus d'une semaine après leur disparition, toujours pas de nouvelles des collégiennes enlevées dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Au moment où le président Goodluck Jonathan rencontre les gouverneurs d'État pour discuter de la situation sécuritaire, des femmes politiques accusent son gouvernement fédéral de ne rien faire pour retrouver les collégiennes prises en otage. Les précisions de Michel Joseph.
Les autorités nigérianes affirment qu'au moins 190 des jeunes filles enlevées n'ont pas été retrouvées. Quelques dizaines d'entre elles ont réussi à échapper à leurs ravisseurs. Les captives, elles, sont probablement détenues dans la forêt de Sambisa, cachette connue des militants islamistes de Boko Haram. Les habitants locaux disent qu'ils connaissent à peu près la position des otages, mais ne savent pas comment faire pour les libérer sans être eux-mêmes tués. Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'enlèvement des collégiennes, mais beaucoup pensent qu'il s'agit de Boko Haram qui les détiendrait pour en faire des servantes ou des esclaves sexuelles. Vêtue de noir en solidarité avec les familles, Aïchatou Ngoulde, militante des droits humains, accuse les autorités fédérales d'une inaction qui, selon elle, relève d'une complicité criminelle. Allez-vous me dire que la forêt de l'État de Borno est si dense qu'aucun avion ne peut en apercevoir le sol? Nos enfants ont été enlevés. Nous sommes toutes des mères. Si c'est la fille de Jonathan qui avait été enlevée, le pays dormirait-il? Pas du tout. De leur côté, les responsables nigérians de la sécurité disent qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour secourir les collégiennes. Si l'armée nigériane lance un assaut direct dans la forêt pour libérer les filles, elle en tuerait probablement un plus grand nombre qu'elle n'en sauverait, avertit Yann Saint-Pierre, PDG de Mosecon, une compagnie de consultance basée à Berlin. Là-bas, les forêts sont denses et la géographie et d'autres éléments compliquent la préparation de l'opération que l'armée nigériane voudrait mener. Ainsi, une offensive massive dans laquelle elle ferait étalage de sa force n'est tout simplement pas faisable. L'armée nigériane est restée silencieuse ces derniers temps, après avoir annoncé puis démenti la libération des collégiennes enlevées. Les femmes activistes de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, ont pour leur part appelé les militants de Boko Haram à négocier avec le gouvernement, leur promettant, et je cite, « un soutien matériel à leur réhabilitation lorsque le besoin se fera sentir ».
En Afrique, chaque minute, un enfant meurt du paludisme. D'où l'importance pour le continent de la Journée mondiale contre cette maladie instaurée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et célébrée aujourd'hui, vendredi 25 avril. Les efforts mondiaux pour combattre le paludisme ont permis de sauver 3,3 millions de vies depuis l'an 2000. Mais le combat n'est pas encore gagné, rappelle l'OMS, car le paludisme tue encore 627 000 personnes chaque année. De nouvelles stratégies sont donc nécessaires, comme celle mise en place par la sous-région du Sahel, où la transmission saisonnière est forte. Pour de plus amples détails, Jacques Aristide a contacté le docteur Alena Koskalova de Médecins sans frontières au Niger.
Les progrès ont été faits, même s'il y a toujours beaucoup de choses à faire dans la lutte contre le paludisme. des stratégies innovatives qui viennent être introduites, par exemple au Niger, c'est la chimio-prévention du paludisme saisonnier.
Justement, parlez-nous-en davantage. C'est quoi au juste?
En fait, chimio-prévention du paludisme saisonnier, nous l'appelons aussi la CPS, tout simplement. C'est une stratégie préventive qui cible les enfants entre 3 mois et 5 ans, donc la population la plus vulnérable au paludisme. Et en fait, cette stratégie veut dire qu'on administre les antipaludéens à un intervalle d'un mois pendant la saison de haute transmission de paludisme. Donc ça veut dire chaque enfant reçoit des médicaments tous les mois et ces médicaments les protègent pendant 28 jours pour qu'ils ne tombent pas malades de paludisme.
Quels sont les pays du continent qui en bénéficient?
C'est par exemple le cas de la sous-région de Sahel où en fait la plupart des cas de paludisme sont concentrés entre juillet et octobre. Donc, cette transmission est liée à une saison de pluie qui est plutôt courte.
Cette nouvelle stratégie sera-t-elle la solution miracle contre le paludisme?
Malheureusement, ce n'est pas un remède miracle. Donc, c'est une stratégie qui s'ajoute aux autres, préventifs et curatifs. Donc, en fait, cette CPS peut prévenir jusqu'à 80% des cas de paludisme simples, sévères, mais il y aura toujours des enfants qui vont avoir le paludisme. Donc, l'accès à la diagnostic et au traitement reste essentiel malgré cette activité préventive.
Mais il y a un besoin urgent de fonds supplémentaires, n'est-ce pas?
Ça, c'est sûr. Ça, je confirme, en fait, le paludisme, c'est une maladie qui nécessite énormément d'efforts, énormément de ressources. Donc, il y a toujours des besoins dans la recherche aussi de nouvelles molécules, de nouvelles stratégies. Et même pour ce qui existe, en fait, pour garantir une couverture suffisante.
L'épidémiologiste Alena Koskalova de MSF, jointe à Niamey. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 102.4 FM, notre fréquence à Ouagadougou. Nous sommes avec le musicien et compositeur malien Bassekou Kouyaté dans notre page culture aujourd'hui. Bassekou qui vient de remporter le prix du meilleur artiste de l'année pour les Songlines Music Awards. Une belle reconnaissance pour cet artiste que nous avions pu rencontrer lors de sa dernière tournée aux États-Unis. Il revient sur la composition de son dernier album Djamako.
J'ai changé quelques titres pour vraiment rappeler aux Maliens. Les islamistes, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a 130 ans, ils ont commencé à venir au Mali pour faire la même chose. Mais heureusement, ils ont été bloqués, les mêmes places que la France a bloqué les islamistes. Mais l'autre là, il a commencé vers la sud pour remonter vers le nord. Donc les islamistes maintenant, ils ont commencé vers le nord, ils vont descendre vers la sud. C'est les mêmes places qu'ils ont été stoppés. Donc j'ai changé le titre aussi, j'ai changé Djamako, j'ai chanté Djamako pour l'unité nationale du Mali parce qu'on a toujours resté ensemble, des biennales, tous, des Kidal, la CAI, tout le monde vient, on fait la fête ensemble à Bamako. Mais maintenant, pourquoi diviser? C'est pas bon pour notre pays. Parce qu'il y a plus de 300 ethnies différentes au Mali. Si chaque ethnie demande la division du Mali, c'est pas bon pour notre pays. Peut-être que chacun va rester avec 100 mètres carrés. Donc on doit être fort, solidarité, être ensemble, combattre. Chacun peut trouver et demander son droit. On est dans un état de droit au Mali, mais pas avec la violence, pas avec des armes. Donc j'ai chanté ça aussi. Je crois qu'ils ont compris, les Maliens, ils ont bien compris. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Avec la libération des Mali maintenant, donc je dois écrire encore.
Et les perspectives alors, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir ou pour vous il faut rester vraiment très attentif?
Non, moi je crois que c'est fini. C'est qu'ils ont tué beaucoup. Ils ne sont pas échappés. Hein. On dit qu'ils ont échappé, ils sont allés à la colline. Je ne crois pas à ça hein, parce qu'il y a... Il n'y a pas d'arbres pour se cacher. Je crois qu'avec les avions, là, ils ont abattu beaucoup, 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 beaucoup d'islamistes. Je sais qu'ils ne vont plus revenir encore. Ça, c'est fini. Cette épidémie est finie dans notre pays, libéré. Je sais que ça va aller. Tout va très bien. Tout va être en ordre maintenant. C'est ça.
Et les autres défis du Mali, alors?
Bon, moi, je crois qu'on a déjà commencé à réconcilier d'abord, à réconciliation avec le nouveau président. Je crois que tout le monde sait ici, tu vois que les Maliens ont choisi, c'est pas pour rien. Parce que les gens savent que c'est quelqu'un qui est dur, il recule pas. S'il dit quelque chose, c'est ça. Donc on connaît déjà cet homme. Je crois qu'il a un bon gouvernement aussi. Ils vont trouver la solution pour les restes. Quand même, la communauté internationale, ils ont fait tout ce qu'ils payent, ils ont fait de mieux. Mais c'est à nous, les Maliens, maintenant, de serrer la ceinture pour vraiment finir les restes. Je crois que ce n'est pas difficile. Nous, les Maliens, c'est facile de s'entendre. On peut pardonner, on peut discuter aussi. C'est la solution, c'est ça. Il faut mettre carte sur table, il faut discuter entre nous. Il faut trouver la bonne formule pour notre pays. Enfin, c'est notre pays.
Le musicien et compositeur malien Bassekou Kouyaté. Restons au Mali pour évoquer les nouvelles technologies. Plus d'une trentaine de leaders de la société civile venant de 7 pays d'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Bamako pour réfléchir au renforcement des organisations de la société civile à travers l'utilisation des technologies digitales. Notre correspondant Kassim Traoré a participé à ce séminaire.
Les rencontres TEPCANS offrent aux représentants de la société civile une formation sur les nouvelles technologies ainsi que des tribunes permettant d'améliorer leur efficacité et augmenter leur impact au sein de leur propre communauté. Louis Delormier, ambassadeur du Canada au Mali.
Les technologies de l'information et les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel de nos jours dans la mobilisation de la société civile. Je vous encourage à en explorer tout le potentiel pour non seulement mobiliser les gens comme vous et à mieux stimuler la participation des citoyens et des populations aux prises de décision.
Cette formation de 2 jours mettra l'accent sur l'application de nouvelles technologies à divers domaines tels que la promotion de la gouvernance démocratique, la facilitation des interactions entre le gouvernement et la société civile. Marie-Beth Léonard, ambassadeur des États-Unis au Mali.
Elle peut être utilisée pour promouvoir la liberté, la démocratie et la transparence à travers cette région et le monde entier. Nous voulons nous assurer que la technologie est utilisée pour plaider en faveur des droits humains, lutter pour la transparence des activités du gouvernement, combattre la corruption et les lois restrictives et protéger les droits des groupes vulnérables.
Au sortir de cette rencontre, les 7 pays participants plus les Maliens doivent mettre en place un réseau de la société civile.
Vous travaillez sur les mêmes questions, rencontrez les mêmes problèmes et ensemble, en partageant des idées et des solutions, vous pourrez être plus fort et même plus capable. De même, vos réseaux pourront être plus efficaces s'ils font partie d'un réseau mondial plus large des réseaux de société civile.
Il faut signaler qu'un nombre croissant d'initiatives de la communauté des démocraties a mis l'accent sur la protection, l'appropriation de la société civile. Ces projets fonctionnent grâce à la compréhension du rôle crucial que la société civile joue dans la démocratie. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Celle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Brian Marcoulier. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons comme d'habitude en musique avec Bassekou Kouyaté et son Bangoubou Blues.
Bamurundi.
Rendez-vous lundi, 21h, temps universel, sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée, bonne nuit et très bon week-end à tous.
Bamana nyake,